Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Une semaine après la sortie du film 120 battements par minute de Robin Campillon, qui raconte les débuts d'ACT UP, association de lutte contre le VIH-SIDA, réputée d'ailleurs pour ses actions de sensibilisation aux méthodes choc, je vous propose de parler de son action aujourd'hui. Finalement, 30 ans après, quels sont les combats d'ACT UP? Quels sont les grands enjeux aujourd'hui dans la lutte contre le SIDA? Ils sont trois autour de cette table pour en parler. Michael Zenouda, qui est président d'ACT UP, Christophe Mathias, qui est militant à ACT UP et responsable de la commission Vivre avec, et Pauline Londex, qui est l'ancienne vice-présidente d'ACT UP Paris et actuellement consultante sur les questions de médicaments. Et si vous avez envie d'intervenir, d'apporter votre point de vue, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 75 75, et bien sûr les réseaux sociaux pour nous laisser des messages. Et dans cette émission, nous aurons également au téléphone le docteur Henriette Mello, qui est dermatologue à Douala au Cameroun, et elle est membre de la branche camerounaise de l'association Society for Women and AIDS in Africa. Et en fin d'émission, on retrouvera la chronique sexualité du docteur Catherine Solano.
Demande à Ronsard.
Bonjour tout le monde, nous sommes à ACT UP Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer.
Mais qui vous a donné l'autorisation?
Il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger pour la fellation.
Regardez pas ça.
Il faut savoir que le risque existe bel et bien.
Oh, je vous demande de quitter cette salle.
Nous vivons le sida comme une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant, nos amis meurent et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale.
Je vais résumer la situation. Melton Farm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitements afin de faire parler sa nouvelle molécule. Et d'amplifier l'effet d'annonce, on va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin.
Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre.
Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous.
Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements.
Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative.
Je risque pas de choper votre connerie de sida, hein. Je suis pas pédée.
À ACT UP Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous.
On vient d'entendre la bande-annonce du film 120 battements par minute de Robin Campillon, qui est sorti la semaine dernière, mercredi dernier, il y a moins d'une semaine. L'occasion pour nous donc de revenir sur le combat d'ACT UP aujourd'hui, mais j'ai envie de faire un premier tour de table pour savoir qu'est-ce que vous pensez de ce film. Michael Zenouda, vous qui êtes aujourd'hui président d'ACT UP, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est révélateur de votre action?
Il est réussi parce qu'il montre vraiment bien la réalité interne d'ACT UP. Les rapports entre les gens, le travail surtout qui est réalisé au sein d'ACT UP, l'expertise qui monte au sein des militants à force de travail, les actions réalisées. Voilà, les militants
vous
actuels...
Vous vous y retrouvez bien, vous ouais, retrouvez bien dans ce, dans
voilà.
ce
qui est... Même les jeunes militants qui sont arrivés il y a 2 ans ou moins se sont reconnus dans le film.
Christophe Mathias, vous qui êtes entre guillemets un vieux militant d'ACT UP, qu'est-ce que vous pensez de ce film? Parce que vous étiez ACT UP au moment justement ce que raconte l'histoire de ce film.
Franchement, Robin Campillo s'est vachement bien démerdé. Parce que bon, on est quand même, ce qui est rare en France, ça a 20 ans cette histoire, hein, qui n'est pas finie, hein, on ne guérit toujours pas d'ici là. Personne des anciens militants n'a dit il est mal, c'est mal fait et tout. Il a...
Et pourtant, vous n'êtes pas des gens commodes, comme on pourrait dire.
C'est ça, voilà.
Critique dans l'ensemble.
Comme on s'est souvent engueulé tous ensemble, plus ou moins, donc personne n'a critiqué le film. Donc non, c'est un film qui est très très bien fait.
Vous retrouvez bien ces années-là, cette angoisse?
Oui, il y a cette angoisse qui existe, qui était là, les décès, les moments drôles, il y a tout ça.
Et... qu'on comprenne bien, on est à l'époque où on n'a pas de traitement efficace. Il y a déjà la ZT, mais c'est pas encore très efficace, mais il n'y a pas les trithérapies.
Oui, oui, non, le problème, c'est que, on l'oublie complètement, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc on n'avait aucune information. Les seules informations possibles, c'était de venir à ACT UP, et c'est là qu'on a appris, qu'on a contacté les labos, les médecins, tout s'est fait. Et ça, le film, bon, ne montre pas le travail de fond, bon, mais le film pouvait pas tout montrer.
Mais si on voit bien votre travail en commission, par exemple, les commissions qui travaillent sur les médicaments, vous devenez des pros des médicaments.
Oui, c'est vrai, mais bon, disons qu'en réalité, l'action publique à ACT UP Paris, c'est pas de faire de l'action pour l'action, parce que d'abord, c'est pas agréable, de rencontrer des gens qui sont en colère comme nous. Ou un peu surpris, d'abord, il y a un vrai travail de fond. Quoi. C'est-à-dire qu'un dossier, il est porté pendant 2-3 mois pour comprendre, savoir et tout. C'est ça, le travail d'ACT UP. C'est toujours ça aujourd'hui. Et les militants, ils sont... rien n'a changé, en fin de compte. La seule chose, c'est les réseaux sociaux.
Pauline Landex, vous en pensez quoi ? Vous, ce film, on voit bien quelques portraits de femmes, hein, d'ailleurs, dans ce film.
Moi, je pense que ce film est vraiment, vraiment magnifique, vraiment très réussi. C'est vrai que Robin Campillo... et Philippe Mangeau, d'ailleurs, qui a coécrit le film, décrit vraiment très bien les réunions hebdomadaires, parfois les conflits, les divergences de stratégie qu'il pouvait y avoir en interne à l'association et qu'il peut toujours y avoir en interne à l'association, et le travail d'expertise, en effet, parce qu'on l'oublie souvent, mais c'est vrai que ACT UP, avant de passer à des actions, on va dire, un peu spectaculaires, ACT UP travaille vraiment, dans le fond, ses dossiers. En essayant à chaque fois d'arriver à des discussions les plus pacifiques possibles.
Le film démarre avec la réunion hebdomadaire du jeudi. Alors moi, j'ai envie de vous demander, jeudi dernier, vous avez parlé de quoi dans cette réunion hebdomadaire ? On voit bien comment ça se passe. Hein. Tout le monde peut avoir la parole, mais c'est quand même très codifié. On ne peut pas prendre la parole n'importe quand. Il faut lever la main ou s'inscrire. Il ne faut pas parler trop longtemps, autrement on vous dit que vous commencez à être ennuyeux. Il n'y a pas d'applaudissements pour qu'on puisse continuer à parler, mais des claquements de doigts, hein, c'est ça ? De quoi vous avez parlé jeudi dernier ?
Jeudi dernier, on a parlé de beaucoup de sujets. On a parlé de la levée de l'interdiction des soins funéraires pour les séropositifs et la levée au créneau de certains thanatopracteurs. On a parlé...
lois bioéthiques qui vont être discutées bientôt. Donc un sujet, par exemple, on va se pencher dessus, qui n'a jamais été abordé à ACT UP Paris, mais qui est en filigrane, c'est la fin de vie. L'euthanasie, pour le dire simplement, c'est un sujet qu'on va travailler, parce qu'il y a là les lois bioéthiques.
Et la fin de vie, ça veut dire qu'on meurt encore du sida aujourd'hui en France ?
Alors, les chiffres sont de 1500 à 2000 personnes en France.
1500 à 2000 personnes qui meurent du sida.
Voilà, d'un sida bien identifié, déclaré. C'est-à-dire répondant aux critères de l'OMS, soit un Kaposi, soit une pneumocystose, avec des lymphocytes inférieurs à 100 ou 200 CD4, je ne sais plus exactement. C'est des sidas avérés. Ouais. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, 50% des décès chez les personnes vivant avec le VIH-sida, c'est des cancers.
Voilà. Et alors quoi, sur des patients qui découvrent très tardivement qu'ils sont porteurs du VIH-Sida ?
Alors d'après le bulletin épidémiologique hebdomadaire et quelques études, 26% des gens qui se découvrent séropositifs chaque année, du moins l'année dernière, arrivaient à un stade avancé. C'est-à-dire
en France, on parle bien de la France.
Ouais. Et c'est assez inquiétant, on commence à réavoir dans les consultations des trucs qu'on pensait plus jamais revoir, comme des sarcomes de Kaposi, ces taches violettes, des méningites, et tous les jours, les services de maladies infectieuses reçoivent des malades, et pas des, comme souvent on laisse à penser, des malades importés, ce qui est faux, puisque des études démontrent, comme l'enquête Parcours, que c'est pas le cas, mais des jeunes
que
blancs...
Que la plupart des migrants, enfin en tout cas plus d'un tiers des migrants qui découvrent leur séropositivité en France, l'ont contracté en France et non pas du tout en Afrique.
Voilà, c'est ça, il faut faire tomber Smith.
On refera une émission d'ailleurs la semaine prochaine avec Annabelle Desgrés-Duloup qui a mené cette enquête, qui dit beaucoup de choses sur le parcours migratoire. Ça dit quand même beaucoup qu'il y a encore des décès aujourd'hui. Je voudrais juste d'abord, avant de parler de vos combats aujourd'hui, de savoir, vous, chacun d'entre vous, comment vous êtes rentré à ACT UP ? À quel moment, pour ce qui est de vous, Christophe Mathias ?
Moi, je suis rentré à ACT UP pour une première période de 91 à 96, bon, parce que j'ai découvert que j'étais séropositif en 1990, donc j'ai demandé de suivre.
Au moment où il n'y avait pas de traitement.
Voilà, l'AZT, donc j'ai commencé à prendre de l'AZT toutes les 8 heures.
Avec plein d'effets secondaires.
Oui, bien sûr. Après, donc c'était toutes les 8 heures, ça allait à peu près. J'ai pas connu la période horrible de toutes les 4 heures. Après, donc, j'ai pris de l'AZT, DDI, qui servait pas à grand chose. Mais là, l'autre, c'était toutes les 12 heures. Alors, un toutes les 8 heures, un toutes les 12 heures. Donc, voilà. Donc, je suis rentré à ACT UP, voilà, parce que je voulais m'informer. Je savais que le décès était probable dans les 3 ans. Et je suis rentré à ACT UP pour me battre. Et voilà, c'est aussi simple que ça, quoi.
Et vous y êtes encore, quoi, on en est quoi, 20 ans après, c'est ça?
Oui,
avec des passages, des ressorties et des re-rentrées, d'après ce que j'ai compris. Mickaël Zénouda, vous qui êtes aujourd'hui président d'ACT UP, comment vous avez découvert ce mouvement? Vous y êtes rentré comment?
Alors, ACT UP, j'ai découvert à la fois par les actions, enfin, quand j'étais jeune, on entendait parler, quoi. Mais surtout à la fac, j'ai découvert par le journal d'information, Action. Voilà, chaque mois je le prenais dans les lieux, à la librairie par exemple, les Mots à la Bouche à Paris, dans le Marais.
Et puis un jour vous avez eu envie de vous engager, c'est ça?
Bah, en fait, c'est en rencontrant mon copain
qui lui était engagé à ACT UP.
Voilà, et donc forcément un ACT UPien beaucoup à ACT UP, donc on rencontre les ACT UPiens.
Tu voulais voir de temps en temps, il valait mieux aller à ACT UP, c'était ça?
Voilà, oui, on peut dire ça. Et après, donc j'ai participé à une manifestation éclair, les ZAP, à Notre-Dame en 2009. Et vraiment, j'ai intégré ACT UP en 2010 autour de la campagne Égalité des droits pour la campagne présidentielle.
Et vous, Pauline Landex?
Alors, moi, je suis arrivée à ACT UP en 2004. En fait, j'ai mis les pieds pour la première fois à ACT UP en 2004. Puis ensuite, vraiment, je me suis engagée vraiment en 2005. Alors, pour moi, ça a été... Alors, bien sûr, j'avais vu ACT UP Paris à la télévision, aussi d'Action de 96, notamment. J'étais toute petite,
mais j'en garde les actions spectaculaires. C'est ça que vous aviez en mémoire.
J'avais vu Christophe Martet au moment du site d'Action, dans un face-à-face avec Philippe Douste-Blazy, alors ministre de la Santé, et c'est vrai que ça m'avait marqué. Je me souviens aussi des images des personnes qui étaient malades, et c'est vrai que ça m'a marqué vraiment très 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 jeune. Ensuite, je suis arrivée à ACT UP plutôt sur d'autres questions, c'est-à-dire les questions d'homophobie, d'égalité des droits, parce que je suis lesbienne, et c'est vrai que en 2004, il y avait un regard d'homophobie, il n'y avait toujours pas la loi sur le mariage pour tous, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis vraiment identifiée à ACT UP. Je me reconnaissais dans aucune autre association.
Donc vraiment sur cette partie lutte contre les discriminations.
Exactement. Donc je suis entrée comme ça, et c'est ensuite peu à peu que je me suis vraiment sentie, même en étant séronégative, extrêmement concernée par la lutte contre le sida, et extrêmement passionnée par ça. Et je pense qu'aujourd'hui, toujours, c'est quelque chose qui m'anime, parce qu'il y a énormément de choses qui restent à faire.
Et on va voir, hein, tout au long de cette émission, justement, quels sont les combats aujourd'hui d'ACT UP.
Santé sur RFI.
Alors ça, c'était votre dernière action à la conférence sur le sida qui s'est déroulée fin juillet à Paris. Vous scandiez des slogans Macron complice du sida. Vos actions, le sentiment que ça m'a donné, sont moins spectaculaires aujourd'hui. Pourquoi, Mickaël Zénouda?
Parce que on est davantage reçu par les pouvoirs publics, ce qu'à l'époque, à l'époque du film ou même après, on n'était pas du tout reçu. Donc il fallait mobiliser les médias et l'opinion publique autour de ces questions-là. Voilà, donc en étant reçu, on est plus ou moins entendu. Ça ne veut pas dire qu'on est écouté, que les politiques vont dans notre sens. Donc c'est pas parce qu'on est reçu qu'il faut s'apesantir dessus. Et faut toujours relancer en fait les politiques. Si on n'est pas là, les politiques vont pas faire des actions efficaces de prévention et de soins.
Christophe Mathias, l'extrait qu'on vient d'entendre, en fait, c'était au moment de la cérémonie d'ouverture. Vous avez interrompu le discours d'Agnès Buzyn, la nouvelle ministre de la Santé. Mais je dirais, enfin, je reviendrai là-dessus, rien de méchant dans votre intervention. C'était juste de rappeler que vous auriez espéré que le président Macron soit là, comme ça avait été le cas sur la dernière conférence il y a 20 ans en France. C'était ça, en fait, que vous vouliez dire?
Oui, parce que on s'attendait à ce qu'il soit présent pour pouvoir discuter des
financements,
des petits arrangements avec le Fonds mondial. Donc, comme c'est une baisse déguisée, façon de parler, donc il est pas venu et c'est pour ça qu'on était en colère et qu'on a fait une action. De toute façon, on n'était pas tout seul. Mais je rappelle que Madame Buzyn, on vous a écrit et vous nous aviez dit au Solides que vous vouliez nous rencontrer. Donc,
et c'est toujours pas le cas.
On n'a toujours pas de réponse.
Mais alors, du coup, le président Emmanuel Macron a quand même reçu toute une délégation au moment de cette conférence. Vous y étiez, ACT UP, ou pas ?
Non, on n'y était pas. Alors, il faut savoir quand même qu'il a reçu avant tout des chercheurs et pas les associatifs. Il y avait ici d'action et aide qui ont été rajoutés à la dernière minute à ce rendez-vous-là.
Pas vous ?
Non, nous, on n'a pas été invités, sans doute parce qu'on a une mauvaise image.
On ne sait jamais ce que vous allez faire, c'est ça ?
Voilà, peut-être. Mais on a toute confiance en CIDAction et en Aide et ils ont relayé la parole des associations. Très bien, quoi.
Alors, je voudrais qu'on parle de vos combats aujourd'hui. D'abord, on va parler beaucoup de la France. On parlera de l'international parce qu'il y a toute la question des financements et du prix des traitements. Mais si on prend la France, on en est où aujourd'hui de l'accès aux traitements en France, Christophe Mathias ?
Alors déjà, je tiens à rappeler une chose qui paraît toute bête, c'est qu'on ne guérit toujours pas du VIH-SIDA.
Non, mais c'est bien de le rappeler, absolument.
Et qu'en termes de traitement innovant et qui permettrait la guérison, il n'y a rien de formidable dans les tuyaux. Donc l'épidémie en France, c'est 6000 contaminations par an, c'est 160 000 personnes vivant avec le VIH-SIDA.
Dont 30 000 qui ne savent pas qu'elles sont porteuses du VIH-SIDA.
D'après, si je me souviens bien, ce serait que 76% qui seraient sous traitement.
Comment ça se fait, ça ?
Comment ça se...
Dans un pays où, entre guillemets, l'accès aux soins est gratuit, quand on découvre que vous êtes porteur du VIH-SIDA, on est en affection de longue durée, prise en charge à 100%.
Oui, c'est assez incompréhensible.
Pauline Landex, vous vouliez réagir ?
Oui, je voulais rebondir sur la question de la France et des traitements. Je pense qu'il y a un point qu'on n'a peut-être pas encore évoqué, mais c'est la question des co-infections. C'est-à-dire aujourd'hui, de quoi on meurt quand on est séropositif et quand il y a d'autres risques. Donc par exemple, l'hépatite C est une des premières causes de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH. Et c'est vrai que jusqu'à il y a 3 ans, on n'avait aucun traitement qui était vraiment efficace sans laisser d'effets secondaires terrible. Et c'est vrai que... Donc,
depuis 3 ans, il y a un nouveau traitement, 3 mois de traitement et même peut-être un peu moins, et on guérit dans 95% des cas de l'hépatite C.
Exactement. Sauf que le laboratoire qui produit ce médicament, Gilead, a fixé un prix extrêmement élevé. Et le problème, c'est que les autorités de santé en France n'ont pas réellement négocié le prix de ce médicament, ou en tout cas n'ont pas fait tout ce qui était en leur moyen pour faire baisser le prix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a dépensé 2 milliards d'euros en une année, en 2015, pour un seul médicament. Donc là où je veux en venir, c'est que à l'avenir, en France, on risque d'être confronté à la question du prix des médicaments, pour les troisièmes lignes de traitement contre le VIH, mais aussi pour tout un tas d'autres médicaments contre le cancer et également contre l'hépatite C.
Du coup, une partie de votre bataille, on y reviendra hein, si vous voulez bien dans la deuxième partie de l'émission, c'est justement sur ce prix des médicaments, sur l'accès aux génériques, sur le développement de nouvelles molécules à des prix compétitifs. On se retrouve juste après les informations, toujours pour parler du combat d'ACT UP. Et je vous rappelle le téléphone, le 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons du travail de l'ONG ACT UP et ce, une semaine après la sortie du film 120 battements par minute de Robin Campillon qui raconte justement les débuts d'ACT UP. Mes invités, Michael Zenouda qui est président de l'association ACT UP, Christophe Mathias, militant et responsable de la commission Vivre Avec, et Pauline Landex qui est ancienne vice-présidente d'ACT UP Paris et actuellement consultante sur les questions des médicaments. Et je rappelle le téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Pauline Landex, juste avant les informations, on parlait de la question du prix des médicaments. Vous nous avez, entre autres, parlé de la question du prix des médicaments contre l'hépatite C, le coût que ça a eu pour la France. Alors, il y a eu des négociations, le prix a un peu baissé, il reste encore très élevé. Je crois qu'on est encore aux alentours de 30 000 euros pour 12 semaines de traitement. C'est encore ce combat sur le prix des médicaments totalement d'actualité, entre autres dans les pays en développement, sur la lutte contre le sida.
Alors, ce combat sur le prix des traitements, il faut savoir que c'est un éternel recommencement. C'est-à-dire que les acquis d'il y a 20 ans sont encore à défendre aujourd'hui.
Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un accès au générique, entre autres en Afrique, qui a permis une baisse du coût des traitements.
Oui, ça a été le cas au début des années 2000. On a eu une baisse très importante du coût des médicaments grâce à la compétition par les génériques. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, l'Inde n'avait pas encore à appliquer le droit international de l'OMC sur la propriété intellectuelle. L'Inde doit appliquer ce droit depuis 2005. En fait, il faut savoir que la plupart des médicaments disponibles sous forme générique aujourd'hui ont été produits en Inde, ont été développés en Inde sous forme générique avant 2005. Donc aujourd'hui, on est encore, pour beaucoup de pays d'Afrique, en termes d'accès au générique, sur les acquis d'avant 2005. Donc aujourd'hui, pour toutes les nouvelles molécules, et notamment les troisièmes lignes, notamment aussi, il faut savoir, les outils de diagnostic de suivi des personnes, on va être encore sur un combat très très difficile.
Et parce qu'il y a des traitements de deuxième ligne, troisième ligne, tout simplement quand la personne devient résistante au traitement au bout d'un moment, c'est ça?
Voilà, et donc...
ces traitements-là, c'est encore très cher.
Absolument. Il y a eu un article du Lancet très récemment, et également de l'OMS, qui indique qu'énormément de gens vont devoir changer de traitement, passer sous seconde ligne, dans beaucoup de pays, notamment des pays d'Afrique subsaharienne. On savait, ACT UP travaillait déjà là-dessus il y a une dizaine d'années, on disait déjà, il va y avoir un problème parce qu'on va devoir changer, beaucoup de gens vont devoir changer en même temps de traitement, passer sous seconde ligne, et là on va avoir un gros problème parce que ça va être beaucoup plus cher et ça va être beaucoup très difficile de passer tout le monde sous seconde.
Et alors il y a encore une mobilisation associative sur cette question, et est-ce que vous arrivez à vous faire entendre ou c'est de plus en plus difficile?
Alors, je dirais que c'est un éternel recommencement. Il y a un mouvement accès aux médicaments qui est plutôt bien organisé. Un mouvement qui a été très fort et qui est très fort dans les pays à revenus intermédiaires, notamment, je pense, au Maroc, en Thaïlande, au Brésil. On s'inspire beaucoup de leur travail. Je trouve qu'en France, en ce moment, des associations comme Aide, Médecins du Monde ou autres commencent à s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs pour permettre l'accès aux médicaments, et c'est très positif. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire.
On a au téléphone le docteur Henriette Mello, qui est dermatologue et vénérologue à Douala, au Cameroun, et elle est membre de la branche camerounaise de l'association Society for Women and AIDS in Africa. Docteur Henriette Mello, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Dans quelles circonstances avez-vous été en lien avec l'ONG ACT UP?
La SOA est une ONG qui a été créée il y a de nombreuses années, et au cours de nombreux congrès, nous avons rencontré ACT UP, qui était une association qui avait une stratégie particulière.
Assez radicale, on peut le dire.
Et oui, et qui a contribué largement à l'évolution de la lutte contre le sida. C'était une association homosexuelle que la SOA rencontrait donc au cours de nombreux congrès.
Et alors vous avez participé, si je ne me trompe, à une action avec eux?
Oui, une action nous a marqué parce que ce qu'il faut retenir et qu'il faut rappeler, c'est que ACOP a agi pour l'utilisation des préservatifs et surtout pour l'accès aux médicaments, aux ARV dans les pays en voie de développement. Je me rappelle à la conférence de l'IAS à Paris en 2003, sous la présidence de Michel Kazatsky, qui en ce moment était directeur de l'ANRS. Après, avant le début de la conférence, ACOP nous a invités à nous coucher sur un plateau pour montrer, sur le planète, pour montrer que si on ne prend pas de médicaments, on sera tous morts. Nous avons été impressionnés par cet acte. Et les photos nous ont impressionnés. Et pendant le discours de clôture, après le discours de Bernard Delanoë et de Mandela, Nelson Mandela, qui faisait promotion aussi de l'accès aux ARV des communautés africaines, lorsque le président Jacques Chirac a voulu prendre la parole, ACOP nous a demandé de lui tourner le dos et ils ont fait du bruit et ils ont arrêté son discours. Ils ont dû interrompre, négocier, et après, le président a considérablement augmenté la contribution de la France au plan mondial de lutte contre le sida et la tuberculose. Et ainsi, Dr. Kazatsky est devenu directeur du Fonds mondial. Donc, la baisse des prix des médicaments était substantielle dès cette année qui suivait et aboutissait à la gratuité dans les pays pauvres.
Au moment de ces actions un peu coup de poing d'ACT UP, vous en pensiez quoi vu d'Afrique? Est-ce que la méthode vous choquait, par exemple, justement, d'interrompre un président de la République et de l'empêcher de parler? Ou vous vous êtes plutôt dit, ben, ça peut peut-être nous donner des idées pour nous au Cameroun?
Ah, il y a des choses qu'on ne peut pas faire chez nous. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait le ministre de la Santé, M. Olam Diona, qui était là. Les membres de sa délégation n'ont pas tourné le dos. Les membres des ONG ont tourné le dos. Mais ce qu'il fallait retenir, c'est qu'il fallait plusieurs stratégies pour aboutir à ce résultat. Et ce que la présidente a dit, c'est important parce que il faut qu'on renouvelle ce combat. Parce qu'on a un problème de deuxième et de troisième ligne. Et donc, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être menées pour aboutir à un résultat. Leur stratégie, c'est une stratégie de choc et nous reconnaissons que ça nous a apporté beaucoup de bien à la population et nous souhaitons que ça continue parce que de nombreux patients ont besoin de troisième ligne et de deuxième ligne qui sont à des coûts
trop élevés pour les pays, entre autres pour le Cameroun.
Trop élevés pour les pays en voie et qui ne sont même pas assurés, où les patients ne sont pas assurés.
Donc c'est important. Merci docteur Henri de Mello. Vous avez envie de réagir à ce qui vient d'être dit, Pauline Landex?
Oui, alors déjà je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est de comprendre que ACT UP, même si ACT UP a toujours eu des actions coup de poing, a toujours mené des actions coup de poing, ACT UP a toujours respecté le travail des autres associations et aussi leurs stratégies, des stratégies parfois différentes. Mais notamment, les contextes, bien sûr, varient et ce qu'on peut faire d'un pays à l'autre varie.
Oui, c'est ça. Docteur Henri Mello le dit bien. Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire forcément au Cameroun, mais ça peut inspirer. Justement, je voulais vous poser cette question, Michael Zinouda. Les liens avec l'Afrique continuent au sein d'ACT UP. Vous êtes principalement sur la France, mais il y a quand même des liens à l'international.
Alors, il y a des liens qui se sont tissés anciennement. On a beaucoup travaillé sur ces questions-là, sur monter un plaidoyer Nord-Sud. Actuellement, l'association s'est resserrée, donc on n'a pas pu conserver en fait ce plaidoyer à l'état actuel. Mais on continue de travailler sur ces questions en interasso avec Aide, avec Coalition Plus. Qui vraiment là a un réseau international et basé
justement dans les pays en développement,
sur l'Afrique francophone.
Il y a une question qui vient de nous arriver de Monique qui est à Paris en France et qui dit: je souhaite parler du prix des médicaments de l'hépatite C. Je pense que c'est une question pour vous, Pauline Landex. Ces prix de médicaments qui grèvent complètement ce que vous avez dit, le budget de la sécurité sociale, car le gouvernement ne veut pas passer au générique. Qu'est-ce que l'association a prévu à ce sujet? Il y a un générique qui devrait sortir.
Alors de l'hépatite C, il y a des génériques. ils existent, mais notre gouvernement ne l'importe pas. Bon,
ils existent dans les pays en développement, justement en Égypte, en Afrique, ce sont des génériques qui sont proposés.
Absolument, mais il faut savoir que dans le droit européen, il y a différents obstacles qui empêchent le gouvernement français d'importer actuellement des génériques. Bien sûr, le gouvernement pourrait utiliser certaines méthodes, notamment la licence d'office.
En cas d'urgence.
Exactement. Mmh. Et c'est quand même une situation d'urgence, puisqu'on parle d'un médicament qui a coûté 2 milliards d'euros à la Sécurité sociale. Donc en fait, ce 2 milliards d'euros à la Sécurité sociale, c'est un tiers du budget de la PHP. Mmh.
Et donc ça veut dire quoi ? Vous essayez de pousser le gouvernement, là, à essayer d'importer des génériques ? Ou pas ?
Alors oui, il me semble qu'il y a un travail, qui est fait par différentes associations là-dessus.
Et Christophe Mathias, vous vouliez réagir justement.
Oui. C'est une des questions qu'on va poser à Madame la Ministre quand on la rencontrera. Parce que en plus il faut qu'il y ait de la transparence sur le coût de
oui, justement ce traitement. Oui, on ne sait pas quel est le prix réel auquel la sécurité sociale.
Voilà, de rétrocession, c'est compliqué, c'est couvert par le secret des affaires, mais le but c'est en fin de compte discuter du coût des médicaments. Dans ce cas-là, si les laboratoires ne jouent pas le jeu, c'est de passer à la licence d'office, quoi.
Et c'est ça que vous demandez, ça fait partie des questions que vous aborderez. Oui, Pauline Landais, juste un dernier mot là-dessus. Et merci beaucoup, Henriette Mello, d'être intervenue.
Juste pour le traitement de l'hépatite C, la sécurité, pour donner un ordre de grandeur à nos auditeurs, une gélule qui coûte 2 euros à produire, en comptant le coût de fabrication, etc., elle est vendue 400 euros à l'assurance maladie.
Voilà. Et encore, on n'a pas le prix effectivement exact, parce que comme le disait Christophe Mathias, il y a une rétrocession au bout d'un certain nombre de médicaments commandés. Je voudrais qu'on parle des autres actions d'ACT UP. Quelles sont les difficultés ? C'est une question pour vous, Christophe Mathias, parce que vous êtes responsable de la commission Vivre Avec, hein, on comprend bien, c'est Vivre Avec le VIH SIDA. Quelles sont les difficultés dans la vie quotidienne des porteurs du VIH SIDA en France ?
Alors, par exemple, déjà, on a ouvert une permanence droits sociaux qui a lieu tous les mercredis sur rendez-vous, où les gens viennent voir, où on les incite, du moins, c'est le but d'ACT UP, ce qu'on appelle l'empowerment, on leur montre ce qu'il faut faire, comment le faire, et comment obtenir...
Pour accéder à leurs droits.
Pour accéder tout simplement à leurs droits, par exemple, à l'allocation des adultes handicapés. Là, c'est un travail qu'on a fait dans l'année avec la CNSA. Bon, pour faire simple, c'est l'organisme qui gère l'équité entre les différents MDPH.
MDPH, c'est les maisons départementales du
handicap. Parce qu'il y a une chose qui se passait, c'est que ces personnes qui demandaient cette allocation depuis 15 ans, on leur disait, mais monsieur, vous avez une charge virale indétectable, vous avez des CD4 qui sont dans la normale, vous ne pouvez plus les prétendre. Donc, on a fait ce travail avec la CNSA pour dire non, c'est pas si simple que ça. Il n'y a pas que les paramètres biologiques à prendre en compte. Il y a les CV secondaires des traitements, il y a la fatigue, il y a tout, voilà.
Donc, il y a cette question d'accès à un minimum pour vivre. Il y a la question de l'accès au logement que vous traitez dans les droits sociaux.
Oui.
Et puis, la question de la discrimination aussi.
Oui, la discrimination, c'est plutôt Michael qui pourra beaucoup plus vous en parler. Par exemple, il y a un autre sujet auquel on a travaillé. Il y a une chose, c'est que dans les 10 ans à venir, la moitié des personnes vivant avec le VIH auront atteint l'âge de la retraite. Donc, on a dû faire une brochure sur comment
vieillir avec le VIH,
voilà,
c'est ça.
Et surtout comment faire valoir ses droits à la retraite, parce que comme la moitié d'entre nous ont eu des carrières hachées ou ont eu des minima sociaux et tout, il y a des choses à voir, récupérer les papiers qu'on a perdus parce qu'on pensait qu'on allait mourir. Pour pas se retrouver à être au minimum vieillesse. Donc il y a tout ce travail à faire, c'est que bon, moi je fais partie de la génération qui va arriver bientôt à l'âge de la retraite. Et c'est maintenant qu'il faut commencer à s'en préoccuper. Donc je dis à tout le monde, il n'y a rien de particulier pour le VIH/SIDA. Dès que vous avez 45 ans, tous les auditeurs, vérifiez votre relevé de carrière, voir si vous avez tous vos points et tous vos tribunaux.
C'est très important. La question des préjugés et des discriminations, justement. Alors, Michael Zenouda, vous trouvez qu'il y a encore beaucoup de discriminations, et d'ailleurs, beaucoup de personnes porteuses du VIH/SIDA ne le disent pas.
Oui, voilà. C'est toujours une maladie stigmatisante qui provoque des réactions de rejet dans la famille, dans la sphère amicale et encore plus dans la sphère affective et sexuelle.
Et dans la sphère professionnelle.
Et dans la sphère professionnelle également.
Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter justement contre ces discriminations?
Il y a beaucoup en fait des discriminations à cause du manque d'informations sur comment se transmet le VIH.
Encore beaucoup d'idées fausses qui circulent. Christophe, voilà. Mathias,
ouais. Ouais. Alors, point de vue, avec les employeurs, ce qui est très très compliqué, c'est d'avoir des preuves quand il y a des problèmes. La sérophobie, c'est un truc qui existe. C'est-à-dire que quand vous dites à quelqu'un vous êtes séropositif, ben vous rentrez tout seul. Mmh. Il y a une enquête de l'an dernier sur les Franciliens, sur 9 Franciliens sur 10 dit non, j'aurais pas de rapport sexuel avec une personne séropositive.
Ça fait encore peur.
Ça fait encore peur. Et ça, c'est la réalité. C'est vrai que le droit du travail, c'est compliqué à prouver. C'est les petites choses auxquelles on n'arrive pas à y répondre, mais à part l'information de tout le monde. Et donc, c'est là, quelque part, le film, on espère, va rebooster un petit peu la lutte contre le sida. Donc, une personne séropositive qui a été traitée très tôt peut travailler comme tout le monde. Pour certains, pour d'autres, c'est plus compliqué, mais voilà, donc c'est cette information qu'il faut dire.
Mais être traité très tôt, ça veut dire être dépisté le plus tôt possible, et c'est bien ça
les enjeux. Ouais.
Et l'autre grand enjeu, c'est toutes les questions évidemment de prévention, on avait commencé à l'évoquer, il y a quand même un travail à faire là-dessus. Vous en êtes où? Vous avez été placé en redressement judiciaire en 2014, vous avez quelques soucis financiers, vous en êtes où aujourd'hui?
Donc,
Christophe Mathias.
Il y a eu un jugement qui a été rendu donc
en 2015.
Voilà, donc on a fini la période d'observation, on a des dettes à rembourser sur une période de 10 ans. Voilà, donc.
Et alors vous arrivez petit à petit. J'imagine en tant que président d'ACTUP, Michael Zenouda, c'est un de vos soucis aujourd'hui, la question du financement de l'association.
C'est sûr, maintenir un niveau suffisant de subventions publiques. De dons privés aussi, c'est une question quotidienne. Faut savoir que voilà, on a la dette, mais on a quand même rétabli la situation de manière saine au niveau financier. C'est ça en fait qui permet de poursuivre notre action de manière pérenne et même progressive en montant, quoi, vraiment.
On arrive à la fin de cette émission. Je veux bien un mot de conclusion, Pauline Landex.
Alors un mot de conclusion, c'est un petit peu difficile, juste une petite chose que je voulais dire. La directrice générale de SIDA Action, Florence Thune, a écrit un texte très très beau dans Libération hier, qui parle de toutes les personnes que le film ne montre pas, toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre, toutes les autres associations de lutte contre le sida. Et je pense que Christophe et Mickaël se joindront à moi là-dessus. C'est vrai qu'il y a énormément de gens qu'on voit pas, mais qui font énormément de choses et avec lesquels ACT UP a et a eu beaucoup de plaisir à travailler.
Et on mettra le lien sur notre site internet et sur les réseaux sociaux avec cet article et avec aussi le site de votre association d'ACT UP. Christophe Mathias.
En conclusion, vous pouvez toujours nous rejoindre. on a besoin de militants. Il n'y a plus qu'un salarié à ACT UP Paris. Donc, vous pouvez venir.
La réunion hebdomadaire de jeudi dernier, il y avait combien de personnes?
Il y a eu 20 nouveaux qui sont arrivés.
Grâce au film, probablement.
Oui, on devait être 35 qui sont impliqués dès le lendemain pour distribuer les flyers dans les cinémas et le surlendemain, qui ont commencé à venir en commission parce que c'est là que se fait le travail. Maintenant on peut travailler par internet, on n'est pas obligé de venir tous les jeudis et c'est là qu'il faut venir. Et si quelqu'un a envie de porter un sujet, par exemple les implants dentaires et le sida, il peut venir et s'emparer du sujet, ça n'a pas changé.
Il y a toujours voilà de quoi faire et de quoi agir. Merci beaucoup à tous les trois d'être intervenus. On mettra toutes les coordonnées de l'ONG ACT UP sur notre site internet et on termine en parlant sexualité avec le docteur Catherine Solano.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Catherine Solano, bonjour.
Bonjour Claire.
Je rappelle que vous êtes médecin sexologue et aujourd'hui vous allez parler aux hommes jeunes qui ne comprennent pas une chose, pourquoi leur amie ne veut-elle pas faire l'amour avec eux?
Oui, c'est une chose que je remarque souvent. Un jeune homme a une copine, ils n'ont jamais eu de relation sexuelle à ce moment-là, et lui il comprend pas du tout, alors qu'il est prêt à commencer sa vie sexuelle, qu'elle ne le veuille pas. Et je crois vraiment qu'il faut expliquer à ces jeunes hommes ce qui se passe.
Alors justement, que se passe-t-il?
Et bien ce que les hommes ont du mal à comprendre, c'est qu'une jeune femme, lorsqu'elle a ses premières relations sexuelles, elle prend tous les risques et quasiment aucun pour eux.
À quel risque pensez-vous?
Et déjà, bien sûr, je pense au risque de grossesse. Une jeune fille qui a des relations sexuelles, elle sait qu'elle risque de se trouver enceinte. Les hommes, souvent, ils n'y pensent pas ou alors pas beaucoup. Donc être enceinte sans être mariée, bah, sans être certaine que l'autre va vous soutenir, bah, c'est difficile pour une jeune fille, surtout quand on est très jeune. Et d'autant plus qu'à ma grande colère, hein, on juge souvent les jeunes filles. On dit, mais y a beaucoup trop de grossesses précoces parce que les jeunes filles ne sont pas sérieuses, pas conscientes qu'elles peuvent être enceintes. Mais on parle presque jamais des hommes qui sont leurs partenaires. On n'entend jamais dire, les hommes ne sont pas sérieux, ils mettent les jeunes filles enceintes.
C'est vrai qu'on entend plutôt Catherine Solano, elle aurait pu penser à la contraception quand même.
Oui, exactement. On considère toujours que c'est aux jeunes filles de s'occuper de la contraception. Et je trouve ça honteux parce que la contraception, on devrait s'en occuper à deux en couple. Et pourquoi ce serait seulement à la jeune fille de s'en occuper? Parce que quand on a un rapport sexuel, ben on est deux. Et l'homme est aussi impliqué que la femme.
Docteur Solano, vous avez dit que les jeunes filles prennent tous les risques. Vous pensiez à d'autres risques alors que la grossesse?
Exactement, parce que je pense aussi au risque d'infection sexuellement transmissible. Parce qu'une jeune fille, elle est beaucoup plus à risque qu'un homme au cours de ses premiers rapports sexuels. En effet, la surface interne du vagin, elle est longtemps au contact du sperme parce qu'il va rester dans le vagin. Et en plus, la surface interne du vagin, elle est très grande, beaucoup plus grande que la surface du gland du pénis, qui est la zone où, par exemple, le VIH peut traverser. Et en plus, le gland du pénis reste moins longtemps au contact des sécrétions vaginales parce qu'il se retire. Résultat, on sait qu'une femme, elle a au moins 3 fois plus de risque d'IST qu'un homme quand le partenaire a une infection sexuellement transmissible. Donc c'est injuste, mais c'est comme ça. Et en plus, ce qui augmente encore le risque, c'est qu'en général, son partenaire est plus âgé lors de la première fois, donc il a pu avoir des rapports sexuels, et c'est plutôt lui qui risque de lui transmettre une IST, parce qu'elle, si c'est sa première fois, il n'y a pas de risque. Hein.
Donc risque de grossesse, risque d'IST, d'infection sexuellement transmissible. Quels sont les autres risques auxquels pense la jeune fille si elle dit oui à son partenaire?
Alors il y a un autre risque, c'est le risque de violence. Parce que dans l'intimité, une jeune fille, eh ben, elle est toujours moins forte physiquement qu'un jeune homme. Si jamais il était violent, elle serait en danger. Et ça, les hommes s'en rendent pas compte, mais accepter d'entrer dans l'intimité d'un homme pour une femme, c'est se mettre potentiellement en danger. Et c'est pour ça qu'une femme, elle a besoin de temps pour dire oui. Elle a besoin de savoir qu'elle va vraiment être en totale confiance avec cet homme-là.
Ça veut dire, docteur Solano, que même si une jeune fille aime son amoureux, qu'elle éprouve du désir pour lui, elle peut dire non pour toutes les raisons que vous avez évoquées.
Exactement. Je suis certaine que même si elle aime son ami, qu'elle a du désir, qu'elle a envie de faire l'amour, elle peut dire non. Et des fois, elle n'a pas conscience que c'est à cause de toutes ces raisons-là. Et puis, en plus, vous avez dit une chose importante, c'est si elle éprouve du désir. Parce que le pire, c'est que souvent, les jeunes filles, quand elles sont toutes jeunes, elles n'ont même pas tellement envie d'avoir un rapport sexuel complet. Alors, si son amie insiste, elle est capable de dire oui sans en avoir tellement envie, juste par gentillesse, alors qu'elle risque d'avoir mal, de saigner, de ne pas avoir d'orgasme, parce que 5% seulement des femmes ont un orgasme la première fois. Elle risque de se trouver enceinte, d'avoir une infection sexuellement transmissible. Alors, vous comprenez bien qu'elle n'a pas forcément envie de dire oui.
Mais il y a quand même des filles qui acceptent, d'abord, parce qu'il existe, entre autres, des grossesses précoces.
Oui, bien sûr. Mais alors, ce que je voudrais dire dans ce cas-là, c'est que c'est les parents qui devraient prendre leurs responsabilités. Expliquer tout ça à leurs filles, leur dire qu'elles doivent dire oui à un garçon seulement si elles sont en totale sécurité, qu'elles lui demandent à lui qu'il l'accompagne pour la contraception chez un médecin, qu'elles lui demandent « tu veux faire l'amour avec moi, mais qu'est-ce qu'on ferait si j'étais enceinte ?» Parce que même avec une contraception, il y a des échecs de contraception qui sont pas négligeables. Et puis en plus, les parents devraient aussi éduquer leur garçon et leur expliquer tout ça.
Merci docteur Catherine Solano. Et comme d'habitude, on retrouve votre chronique sur le blog de l'émission. Vous trouverez toutes les coordonnées sur notre site internet rfi.fr. Et docteur Catherine Solano, comme d'habitude, vous répondez également après votre chronique à une question d'auditeur. On a Sidik Abakar qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Sidik, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Ok, j'ai 26 ans et je n'ai pas encore fait une relation sexuelle. Et moi, j'ai fait peur du premier jour alors. J'aimerais savoir comment faire pour le premier jour.
Pour ne plus avoir peur. Docteur Catherine Solano, la peur de la première fois, elle est du côté masculin comme féminin.
Ah oui, alors la première fois, tout le monde a peur. D'abord, il faut savoir que c'est normal d'avoir peur. Il ne faut pas vous dire je suis bizarre, tout le monde le fait facilement. Non, tout le monde a peur, même ceux qui friment et qui disent moi, voyez, je n'ai pas peur, je suis très à l'aise. Non, tout le monde a peur, ça c'est important. Et donc, il faut savoir aussi que la peur et le désir sont deux émotions qui se combattent quelque part. À partir du moment où vous allez avoir une amie et vous aurez beaucoup de désir, bah vous aurez moins peur parce que le désir finit par l'emporter sur la peur. Et c'est ça qui permet de passer à l'acte. Donc ça, c'est important. Si vous avez une amie et que vous avez du désir, ça va finir par être plus facile. Ensuite, Pour ne pas avoir peur, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il faut être en confiance avec la personne. Parce que des fois, la peur, c'est une bonne chose. Par exemple, si vous avez une amie ou une fille qui vous plaît, mais vous sentez qu'elle n'est pas très attentive, pas très attentionnée, vous avez peur, et ben peut-être que c'est votre cerveau qui vous dit « Méfie-toi, cette fille, elle va pas te faire de cadeau si ça marche pas très bien la première fois. » Et donc, il faut des fois l'écouter.
Bien choisir.
Bien choisir, vous avez raison, Carl. Bien choisir, c'est important. Ensuite, pour ne pas avoir peur, c'est très simple, il faut prendre son temps. Parce qu'on a d'autant plus peur qu'on veut aller très vite et directement à l'action, directement à un rapport sexuel complet. En fait, l'idéal, c'est de ne pas avoir un rapport sexuel la première fois, mais plutôt dire à votre ami, écoute, moi j'ai envie qu'on aille doucement, tranquillement, qu'on apprenne à se connaître, je ne suis pas pressée, on est bien ensemble. Et du coup, bah, la jeune fille qui a peur, elle se dit, ouf, j'ai moins peur, il ne veut pas y aller directement, parce qu'elle a peur d'avoir mal, elle a peur d'être enceinte, etc. Si au début, bah, il n'y a pas de pénétration, ça va être, vous aurez moins peur, parce que si votre érection n'est pas parfaite ou qu'elle diminue, elle revient, bah, vous vous direz pas zut, c'est au moment clé que j'ai plus d'érection. Et comme vous allez prendre confiance petit à petit, vous allez mieux vous connaître, vous allez aussi apprendre la sensualité, vous allez rigoler tous les deux. Le jour où vous allez vous dire, bon, cette fois-ci, on est prêt, on va le faire, bah, si c'est pas tellement réussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes la première fois qui disent, bah, on n'a pas réussi à faire la pénétration, j'ai pas trouvé, je me rappelle un patient, il me dit, j'ai pas trouvé l'entrée, et là, sa copine n'avait pas réussi à l'aider non plus. Ça arrive à des gens tout à fait intelligents, hein, y a pas. Mais quand on se connaît bien, qu'on a eu beaucoup de moments de caresse et tout, on se dit, bon, bah, on y arrivera la prochaine fois, ou au bout de deux ou trois fois, on n'est pas plus bête que les autres, quoi, voyez?
Donc, c'est ça. Prendre son temps, on le retient. Merci beaucoup, en tout cas, Sidi Kabakar, pour votre question. Et merci, docteur Catherine Solano. Et demain, nous verrons que faire lorsqu'un adolescent montre des signes de radicalité. Quelle prise en charge? Le 33 1 84 22 75 75.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.